les Juifs se querellaient entre eux, comment celui-là peut-il donner sa chair à manger ? Dans cette résistance, cette révolution des Juifs, nous pouvons reconnaître quelque chose de notre propre réaction aux paroles de Jésus. En tout cas, nous aussi devrions être heurtés, peut-être écœurés, par cette invitation à manger la chair d'un homme. Pourrions-nous dire plus ou moins explicitement, manger son semblable, c'est bel et bien la définition du cannibalisme. Cela rejoint les pratiques religieuses primitives, un univers sacré que nous rejetons totalement. Est-ce que Jésus voudrait revenir à des pratiques ancestrales sanguinaires? Pour sortir de ce scandale, nous devons faire appel à notre foi. Si celui qui donne sa chair à manger est seulement un homme, s'il est seulement Jésus de Nazareth, alors oui, ce qu'il propose est parfaitement scandaleux. Cet homme est fou. Mais si, comme le dit notre foi, ce Jésus qui parle ainsi est non seulement homme, mais vraiment Dieu, alors nous pouvons quitter le scandale pour entrer dans le mystère. Qu'est-ce que la chair d'un Dieu? Cela, nous l'ignorons totalement. Dieu est au-delà de notre expérience habituelle, donc sa chair est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. La chair de Jésus de Nazareth serait parfaitement répugnante à manger. La chair de Jésus-Christ est parfaitement mystérieuse, comme tout ce qui concerne Dieu. Et au moins, selon notre foi, nous ne sommes sûrs que d'une chose, si cette chair est du côté de Dieu, elle est du côté de la vie. Oh, je ne dis pas qu'entrer dans le mystère est simple. Mais être scandalisé nous fige, nous enferme dans la colère, dans la révolte, dans le dégoût. Entrer dans le mystère, au contraire, peut nous faire sortir de nous-mêmes. Le scandale bloque violemment les portes de notre intelligence. Le mystère, lui, se propose de lui ouvrir un chemin. Et si nous acceptons d'entrer dans le mystère, la question des Juifs, comment celui-là peut-il donner sa chair à manger, cette question ne peut plus être la nôtre. D'ailleurs, avec le Seigneur, les questions en comment restent sans réponse. Comment a-t-il créé le monde? Comment les Hébreux ont-ils pu traverser la mer Rouge? Comment une vierge peut-elle porter un enfant, etc. Avec le Seigneur, au lieu des comment, mieux vaut se demander pourquoi. Car la réponse à tous ces pourquoi, nous savons toujours la trouver. Non pas en creusant très profondément dans notre cerveau, ça c'est pour les comment, mais plutôt en sollicitant notre mémoire de la Bible ou notre expérience personnelle. Pourquoi Dieu agit-il comme il le fait dans l'histoire des hommes? Il y a ses réponses pour sauver, pour libérer, pour faire triompher la vie. Pourquoi agit-il comme il le fait par amour? Pourquoi Jésus-Christ peut-il nous donner sa chair à manger, son sang à boire? Donne-nous la même réponse pour sauver. Avec d'autres mots, pour nous faire vivre de la vie divine. Et en parlant de nourriture et de boisson, le Christ fait appel à quelque chose de très simple, à notre expérience de tous les jours. Ce que nous mangeons, ce que nous buvons, pénètre totalement en nous, dans toutes les ramifications de notre organisme. Les constituants de notre nourriture et de notre boisson finissent par faire partie nous-mêmes, en nous procurant, c'est d'ailleurs le plus recherché, de la force, du réconfort, en nous aidant dans la croissance. Et bien de la même façon, mais de manière infiniment plus radicale, puisqu'il s'agit de la force divine, du réconfort divin, en se faisant nourriture et boisson pour la multitude des hommes, le Seigneur veut que ce qu'il est lui fasse intimement partie de l'être de fasse intimement partie de de celui, de celle qui mange et boit ce que le Christ désigne comme son corps et comme son sang. Si la divinité devient nourriture et boisson pour notre humanité, alors notre humanité devient à son tour divine, c'est-à-dire victorieuse de la mort, porteuse de vie. Et peut-être alors les paroles déroutantes, choquantes du Christ peuvent trouver un accueil, une résonance dans notre intelligence et dans notre cœur. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Voilà pour l'incorporation complète au plus intime de ce qu'est Jésus-Christ en celui, en celle qui le reçoit. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Voilà pour la divinisation de notre humanité, nourrie de Dieu lui-même. Alors offrons-nous maintenant un petit moment de silence pour redécouvrir toute la force de ce discours de Jésus sur le pain de vie. Délivrons-nous de l'écoute routinière de ses paroles. Laissons de côté le fantasme, le scandale d'un cannibalisme imaginaire. Entrons de nouveau dans le mystère. Le mystère d'un Dieu qui veut se donner entièrement à nous, jusqu'à risquer d'être entièrement anéanti, telle une nourriture qui se dissout jusqu'à l'anéantissement dans l'organisme de celui qui le reçoit. Entrons de nouveau dans le mystère d'un Dieu qui, parmi toutes les réalités de l'existence humaine, a choisi ce qu'il y a de plus quotidien et de plus vital, la nourriture, pour réaliser son désir de diviniser jour après jour notre humanité.